La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
L'hiver s'est installé, avec lui le calme règne dans les sous-bois, mais pour nous réchauffer le cœur, on a décidé d'avancer le printemps et de vous parler du chant des oiseaux. C'est un son de la nature qui intrigue les humains sans doute depuis toujours, le chant des oiseaux. Qu'il nous interpelle ou nous charme, ce chant ne fait pas depuis si longtemps que ça l'objet d'études scientifiques. On en sait désormais plus sur la neurobiologie de ces phrases mélodiques, sur leurs fonctions et leurs transmissions. Une chose est sûre, toutes ces découvertes mises bout à bout ne font qu'augmenter notre fascination pour ce concert à plumes qui, avec la crise de la biodiversité, tend à se faire de plus en plus discret. Chant des oiseaux, redécouvrez la flûte à bec. Bonjour Fanny Ribac.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse dans l'équipe communication acoustique à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay. Et bonjour Grégoire Loïs.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de Viginature au Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes l'auteur de Ce que les oiseaux ont à nous dire aux éditions Fayard. Vous pouvez, comme chaque jour, nous suivre en direct sur notre fil Twitter @sciencecqfd pour retrouver toutes les informations qui nous ont été utiles pour la préparation de cette émission. On va bien sûr tout au long de cette heure essayer de vous faire entendre le plus de chants d'oiseaux possible et de transformer le studio en volière. Mais avant ça, je vous propose d'écouter la voix de Ludwig Korr, qui a été le premier à enregistrer le chant des oiseaux en 1889. On l'entend ici parler de la fascination qu'exerce sur nous le chant des oiseaux. C'était en 1954.
Bien que les documents de musique des temps passés que nous possédons nous apportent la preuve que depuis des siècles, le chant des oiseaux a inspiré les compositeurs. Je n'ai jamais pu trouver de relation entre ce chant et notre musique. Avec les oiseaux, ce qui est important, ce ne sont pas les variations de ton, c'est plutôt le timbre. Personne ne peut imiter ce timbre en sifflant, et je ne connais pas d'instrument musical capable de le reproduire, tant il est variable entre les différentes espèces d'oiseaux. Cependant, je comprends très bien pourquoi la beauté et le rythme du chant des différents oiseaux a toujours inspiré et inspirera toujours les musiciens créatifs.
Voilà la voix de Ludwig Korr qui fait part de cette fascination esthétique pour le chant des oiseaux, Fanny Ribac. À partir de quand cette fascination est aussi devenue une question scientifique? À partir de quand on s'est intéressé au chant des oiseaux comme objet d'étude à proprement parler?
Je pense que c'est beaucoup lié à l'avènement de matériel pour pouvoir les enregistrer et les enregistrer facilement. Et aussi pouvoir visualiser les sons, et notamment avec l'apparition de la visualisation amplitude en fonction de la fréquence et en fonction du temps, qui est le spectrogramme. Et en fait, les premières études d'enregistrement très intensives, c'est dans les années 1950-1960.
Relativement récemment dans l'histoire des sciences et de notre connaissance de la biodiversité. Grégoire Loïs, elle vous provoque quoi, cette archive? Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute?
C'est émouvant, et puis on sent une part de subjectivité sur... il donne son ressenti, clairement, on est proche de l'émotion. Il y a un témoignage scientifique, mais on est proche de l'émotion.
Qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre en tant que scientifique quand vous écoutez ce chant des oiseaux? Bien sûr, on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cette heure, mais le mouvement initial, c'est quoi, Fanny Ribac?
C'est comprendre ce qu'ils se disent et comment ils se le disent. C'est-à-dire, quels sont... les informations qui sont codées dans les chants, dans les vocalisations, et comment elles sont codées, quels sont les paramètres qui sont importants pour coder l'information.
Grégoire Loïs, vous en tant qu'observateur, qu'est-ce qui vous interpelle dans le chant des oiseaux?
Alors ce qui m'interpelle, ce qui nous interpelle en tant que ornitho-amateurs, birdwatchers, comme disent les Anglais, c'est la diversité et puis c'est la structuration de ces communautés sonores. C'est quand même un des groupes pour lesquels on a le plus facilement des appréhensions, qu'elles soient visuelles ou acoustiques. Et du coup, on a comme ça une perception... on est au plus proche de ce qui se passe dans la communauté des oiseaux, et puis le fait que ce soit finalement... un vocabulaire assez, assez facile à acquérir. On n'a pas des, on n'est pas en Amazonie, on n'a pas comme ça des centaines d'espèces autour de chez nous. Et donc, où qu'on soit en France, c'est assez rapidement qu'on peut apprendre à connaître toutes les vocalisations des oiseaux qui nous entourent, des quelques dizaines d'espèces qui nous entourent.
Ce qui est étonnant, Fanny Ribac, c'est que quand on pense oiseaux, on pense immédiatement au chant. Or, tous les oiseaux ne chantent pas.
Non.
Et ça, c'est un peu...
Tout du moins dans la définition qu'on a des chants, qui est une définition finalement pas complètement, c'est une catégorie pas du tout fermée. Mais dans le langage courant, quand on parle d'oiseaux chanteurs, on parle plus des oscines, qui représentent quand même presque la moitié des espèces d'oiseaux.
Les oscines, c'est un peu les anciens passereaux.
C'est ça, c'est ça. Et qui ont la capacité de produire des vocalisations apprises par imitation, qu'on appelle des chants. Par opposition aux cris, qui, chez beaucoup d'espèces, ne sont pas produits après un apprentissage par imitation.
Grégoire Loïs, on connaît alors combien d'espèces, de milliers d'espèces d'oiseaux, et sur ces plusieurs milliers d'espèces d'oiseaux, combien chantent à peu près ?
Bah, on l'a dit, c'est à peu près la moitié, donc on est entre 12 et 14 000, suivant les sources. Les taxonomistes ont tendance, il y a les splitters, les mergers, donc il y a des taxonomistes qui ont tendance à séparer les sous-espèces en espèces ou pas. Et c'est à peu près la moitié des oiseaux qui ont un organe de chant, qui ont cette faculté non seulement d'apprendre, mais aussi de restituer des sons complexes. Après, le chant, si c'est la fonction, par exemple, puisqu'on peut le définir aussi selon la fonction, qui est liée à la reproduction et à la défense du territoire, là, pour le coup, il y a tout un tas d'autres émissions sonores qui passent pas par la colonne d'air qui va du bec au poumon.
Parlons justement de cette colonne d'air et de ce qui fait qu'un oiseau va pouvoir émettre un son, Fanny Ribac. Alors, pas tout de suite forcément le chant, mais on peut dire chant et cri. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau va pouvoir émettre un son strident, complexe, mélodieux éventuellement?
Alors il a pour ça, à la jonction de sa trachée et de ses bronches, un organe particulier qu'on appelle la syrinx, ou le syrinx,
oui, on peut dire les deux.
Et qui est en fait un ensemble de membranes et de muscles. Et une des particularités des oiseaux chanteurs dont on parlait juste avant, c'est qu'ils ont un très grand nombre de muscles qu'ils peuvent contrôler très très finement. Et en plus, la particularité de cet organe, c'est qu'il est sur deux voies, puisqu'il est à la jonction des deux bronches. Et ce qui permet aux oiseaux de produire sur deux voies, soit simultanément, soit en alterné très très rapidement. Et donc, il va permettre une très grande diversité de sons.
Ça va permettre non seulement une grande diversité de sons, mais je crois aussi une moins grande perte d'énergie en émettant le son, et ce son particulièrement complexe.
Ouais, alors en plus, c'est vraiment raccordé à l'appareil respiratoire des oiseaux, qui est très particulier, qui est très singulier, qui n'existe que chez les oiseaux, et qui est un appareil où le moteur ventilatoire et l'échangeur respiratoire sont distincts. On a l'échangeur respiratoire sont des poumons qui sont tubulaires, qui sont rigides, et le moteur ventilatoire sont des sacs aériens qui sont présents dans tout le corps de l'oiseau, qui vont même jusque dans les os des oiseaux, qui font les os pneumatisés. Et c'est eux qui vont jouer le rôle qui vont être capables de se gonfler et de se dégonfler. Et c'est eux qui vont créer un mouvement d'air, donc dans les voies respiratoires supérieures, qui sont les bronches et la trachée. Et c'est au passage de ce mouvement d'air que les membranes vont vibrer. Et la tension des membranes est contrôlée par ces muscles. Et c'est ce qui produit des chants qui peuvent être effectivement très très variés.
Et ça confère une grande plasticité justement aux oiseaux et une grande aisance dans l'émission de ces sons. Grégoire Loïs, du point de vue de l'évolution, est-ce qu'on a une idée, même si c'est toujours compliqué quand on parle de ces centaines de milliers millions d'années d'évolution qu'on a derrière nous, est-ce qu'on a une idée de ce moment où la vocalisation a commencé à apparaître?
Alors, il me semble que ça, d'après ce que j'ai lu, parce que moi je travaille pas en évolution, mais j'ai des collègues au muséum qui bossent dessus, il me semble que c'est à peu près 60 millions d'années où on se dit que finalement il y a des vocalisations. On suppose qu'il y a des dinosaures qui ont des vocalisations, mais plutôt avec une chambre d'écho, par exemple nasale pour certains dinosaures. Mais il me semble que les vocalisations qui seraient, mais il n'y a pas réellement de... Les parties dures, en fait, la trachée, par exemple, elle est composée de parties dures. Et effectivement, le fait qu'elle soit indéformable, ça participe de la possibilité d'émettre des sons. Parce que si elle se déprimait ou qu'elle se gonflait, et donc le squelette d'un oiseau, on voit bien les anneaux de la trachée, jusque justement le dernier anneau juste au-dessus du syrinx. On n'a pas de fossiles, mais il me semble avoir lu que c'était 60, entre 40 et 60 millions d'années. Que...
Fanny Ribac,
ouais. Ouais, alors moi, dans mon souvenir, on date l'apparition des oiseaux chanteurs, donc toujours ces fameuses oscines, à peu près à 60 millions d'années par là. Parce qu'on a retrouvé des squelettes, en fait, hein, des squelettes fossilisés. Et je crois qu'il y a une description très complète d'un syrinx qui date de 45 millions d'années.
Donc il y a quand même un paquet de temps. Vous évoquez ces oscines, Fanny Ribac, parmi les oiseaux chanteurs. Est-ce qu'il y a d'autres grandes familles d'oiseaux qui sont aussi considérés comme chanteurs? En préparant cette émission, je voyais qu'il y avait aussi les psittaciformes, donc la famille des perroquets, des perruches, et puis les trochiliformes, les colibris. Est-ce que ça, vous confirmez qu'il n'y a pas que les oscines qui sont chanteurs?
Ah non, il n'y a pas que les oscines, c'est sûr. Surtout qu'il n'y a pas que les oscines qui vocalisent. Enfin, vraiment, les oiseaux sont vraiment des êtres de son. Il y a beaucoup d'oiseaux qui vocalisent et qui produisent des vocalisations très différentes et très variées, ou pas de vocalisation, parce qu'il y a des oiseaux qui produisent des sons en faisant claquer leurs ailes,
leur bec, en
tambourinant, etc. Si on parle de la capacité de produire des sons après apprentissage par imitation, on retrouve ça dans l'arbre des oiseaux, chez les oscines, chez les psittaciformes, donc tous les perruches, etc., chez les colibris, et c'est suspecté chez quelques autres, mais là où on a vraiment le plus de preuves, c'est chez ces trois grands groupes.
Alors, on évoquait cet organe si particulier, Grégoire Loïs, le syrinx, la syrinx qui permet aux oiseaux de vocaliser. Est-ce que cet organe est quasiment identique chez tous les oiseaux, ou est-ce qu'il peut avoir des formes assez variées?
Alors, il me semble qu'il peut avoir des formes variées. Chez les oscines, notamment, il me semble, mais alors, c'est un peu sous votre contrôle, hein, qu'il est à la fois sur la trachée et les bronches, donc on dit trachéobronchial, et puis qu'il peut être très réduit, et voire même absent. Il est absent chez les cigognes qui
claquent du bec.
Exactement. Voilà. Ouais. Il est absent chez les vautours du Nouveau Monde, et puis il est très très réduit, par exemple, chez les vautours de l'Ancien Monde, ou chez les ardéidés, hein, c'est, suffit d'entendre le cri d'un héron sombré pour se douter que c'est pas
sa spécialité.
C'est pas un instrument complexe.
Fanny Ribac.
Bah moi je suis pas non plus spécialiste de la syrinx, mais par contre je sais qu'effectivement la syrinx, elle est localisée plus ou moins haut et plus ou moins à la jonction. Il y a même chez certains oiseaux, comme le disait Grégoire, où il y en a pas, ou alors c'est beaucoup plus haut, c'est-à-dire que dans ce cas-là les oiseaux peuvent pas produire a priori tellement sur deux voies, voire beaucoup plus bas. Et y a une histoire de localisation, et après il y a une histoire de combien il y a de muscles qui sont associés à ça. Est-ce que les oiseaux sont capables de contrôler chacun des côtés indépendamment? Alors il y a un petit biais, c'est que ça a été très étudié chez les oiseaux chez qui on a cherché, et notamment chez les oiseaux chanteurs. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup plus de choses finalement sur la syrinx des oiseaux chanteurs que sur la syrinx d'autres oiseaux, parce qu'on a moins cherché, parce qu'on était peut-être un peu focalisé sur ces histoires de chants.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette différence de développement du syrinx de la syrinx va avoir un impact sur la complexité et la variété des mélodies. Et à ce titre, je vous propose d'écouter l'un des emblèmes des oiseaux chanteurs, l'oiseau lyre.
L'oiseau lyre possède le don étonnant de reproduire avec précision les sons qui l'entourent. Son organe vocal est le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs. Il copie, entre autres, le chant d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. L'imitation est telle que même le koukaburra, le martin-pêcheur géant d'Australie au chant si compliqué, lui répond. Depuis quelque temps, l'oiseau lyre imite de nouveaux bruits qui ont envahi son environnement. Un appareil photo. Différents modèles. Une alarme de voiture. L'oiseau lyre semble avoir de nouveaux voisins envahissants. Son territoire est grignoté chaque jour par l'activité humaine. Ses chants amusants pourraient bien résonner comme un cri d'alarme.
Voilà, Grégoire Louis, c'est garanti. Sans trucage, l'oiseau lyre, c'est un des phénomènes de ces oiseaux chanteurs, une réaction.
Ah, il faut regarder ça. En fait, c'est un reportage de la BBC, David Attenborough, qui est disponible sur YouTube. Il faut absolument regarder ça, parce qu'effectivement, comme ça, à l'oreille, on se dit, oui, il y a quelqu'un qui démarre une tronçonneuse à 50 mètres. Non, pas du tout. C'est vraiment l'oiseau lyre qui reproduit la tronçonneuse, l'alarme, le déclic de l'obturateur photo, etc., quoi.
Fanny Ribac, une réaction à ce que vous venez d'entendre et à cette capacité mimétique de l'oiseau de lyre.
Bah c'est un exemple presque pas caricatural, mais complètement exacerbé de ses capacités d'imitation qu'on va retrouver chez les oiseaux chanteurs dans des degrés plus ou moins variés. Puis c'est aussi un très bel exemple, je trouve, rien qu'à l'écoute, on sent bien que les sons sont très très différents. Et les sons, ils peuvent être différents de qu'est-ce qui peut les distinguer? C'est toute la gamme fréquentielle qu'ils peuvent explorer. Là, on entend des sons graves, des sons aigus, on entend des sons très répétés ou alors des sons qui sont beaucoup plus longs. Et c'est un seul oiseau qui est capable de faire ça. Donc ça montre bien effectivement toutes les grandes capacités. Et au-delà de ça, sur l'histoire de l'imitation, alors l'oiseau lyre, c'est emblématique, mais finalement, dans nos campagnes, on a des oiseaux qui aussi incorporent des sons d'autres espèces, des sons même de l'environnement. Alors parfois, peut-être pas aussi reproduits de manière aussi...
aussi précise, belle, et spectaculaire,
précise ouais. que l'oiseau lyre, mais bon, le chant de la fauvette à tête noire, il incorpore des morceaux de syllabes ou de notes d'autres oiseaux, le chant du rouge-gorge aussi, et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les oiseaux qui produisent des vocalisations apprises par imitation.
Et ça pose justement cette question, alors ça c'est le cas d'école, le cas spectaculaire et joli de l'oiseau lyre, mais Grégoire Louis, ça nous pose la question de l'inné, de l'acquis, du mimétisme et de la partie d'apprentissage de ce chant-là, qui, alors ça c'est une des questions clés en matière de chant des oiseaux. Est-ce que on sait la part chez les oiseaux chanteurs hors oiseau lyre de l'inné, de l'acquis, de cette partie d'apprentissage?
Alors d'abord elle est variée. Elle est variée même au sein des oscines, elle est variée cette part d'apprentissage. C'est un vieux sujet hein, puisque en fait les premiers témoignages il y a des témoignages qui datent du XVIIIe siècle et qui mentionnent que en élevant des oiseaux, en les séparant les uns des autres, à une jeune linotte mélodieuse, qui a un chant vraiment caractéristique, il y avait un éleveur d'oiseaux qui avait réussi à la faire chanter comme une alouette, qui elle-même incorpore énormément d'imitations aussi, mais avec un autre timbre. Donc on se doute bien qu'il y a là quelque chose. L'apprentissage, il n'est pas fonction de la diversité ou de la complexité du chant, semble-t-il, puisque le pinson des arbres, par exemple, c'est beaucoup par apprentissage, alors que finalement, c'est une phrase assez stéréotypée. Et il y a eu pas mal d'expériences en neurobiologie qui sont pas forcément super sympathiques pour les oiseaux, puisque c'est par exemple en assourdissant des oiseaux, en leur diffusant d'autres sons, puis en les assourdissant pour voir comment la succession qu'on a vu que la part était effectivement assez variable chez les oiseaux l'apprentissage il peut aller jusqu'à l'acquisition d'accents régionaux, des accents régionaux qui peuvent être positivement sélectionnés, c'est-à-dire qu'en fait une femelle qui arriverait sur un territoire où il y a un mâle qui n'a pas l'accent local, probablement que c'est contre-sélectionné parce que ça suppose que c'est un mâle qui a peut-être pas de territoire ou peut-être moins de facilité. Alors évidemment, c'est pas une interprétation de la femelle. Hein. C'est un modèle supposé de contre-sélection, mais il pourrait y avoir une contre-sélection des oiseaux sans accent.
Fanny Ribac, sur cette question de l'apprentissage de la vocalise du chant des oiseaux, qu'est-ce qu'on a pu établir, qu'est-ce qu'on sait de façon certaine et qu'on peut généraliser aux milliers d'espèces? Parce que c'est vrai qu'on parle de milliers d'espèces, donc c'est compliqué
D'abord, il faut peut-être reparler d'où ça sort. C'est-à-dire qu'effectivement, Grégoire parlait des dialectes. Et en fait, c'est dans les années donc 1950-1960, on s'est mis à aller enregistrer des oiseaux de la même espèce dans des populations différentes, séparées par quelques kilomètres ou plusieurs kilomètres. Et on s'est aperçu que tous les oiseaux d'une même localité chantaient quelque chose qui était plus proche que des oiseaux d'une localité différente. Donc on a des variations géographiques des sons. Et ces dialectes ont permis de poser l'hypothèse, est-ce que ça ne serait pas acquis par apprentissage?
Là on entend en ce moment même une alouette qui a un accent particulier, alors je vous dirai pas lequel puisque je ne parle pas très bien l'alouette, mais on sait que cette espèce-là, par exemple, est très sensible au micro-dialecte et que d'un pays rural, on va dire, à un autre pays rural, les alouettes ne parleront pas le même dialecte et n'auront pas le même accent.
Ouais, alors chez l'alouette, c'est ça. C'est vraiment des variations qui sont dites micro-géographiques parce que c'est à l'échelle de quelques kilomètres. Les oiseaux sont établis dans des territoires en milieu ouvert et au sein de ces territoires, si on enregistre tous les oiseaux, on va s'apercevoir que les oiseaux partagent dans leur champ qui est par ailleurs extrêmement diversifié des séquences d'unités sonores qu'ils vont produire dans le même ordre et on ne va pas retrouver ces séquences quelques kilomètres plus loin. En tout cas, on va retrouver les mêmes syllabes éventuellement, mais pas dans le même ordre. Mmh. Donc on a un micro-dialecte et qui a une certaine fonction d'ailleurs, et qui a une fonction en fait qui, visiblement, tous les oiseaux d'une même localité connaissent ce micro-dialecte, l'expriment dans leur chant, et ça leur permet de se reconnaître, de s'identifier en tant que voisins déjà établis dans des territoires, et finalement ça va réguler les relations, et notamment les relations agressives. Lorsqu'deux voisins chantent, ils chantent chacun sur leur territoire, et lorsqu'ils se reconnaissent, ils reconnaissent ce micro-dialecte, en fait ils vont pas être aussi agressifs vis-à-vis d'un voisin que vis-à-vis du chant d'un oiseau produit à quelques localités différentes.
Grégoire Loïs, moi je me pose une question un peu d'enfant, mais je me dis un oiseau juvénile, combien de temps ça va lui prendre pour apprendre ce chant que vont lui transmettre a priori les adultes qui le nourrissent, ses parents ou d'autres de la communauté?
Alors une partie de la réponse, elle est dans la longévité des oscines en général. Hein. Il y a peu d'oiseaux longévifs chez l'ex-groupe des passereaux. Il y a le grand corbeau, éventuellement chez les corvidés, on va trouver des oiseaux un peu longévifs, mais sinon c'est quelques années. Et la saison de reproduction, pour la plupart des oscines, elle commence dès la deuxième année au milieu tempéré. Donc 12 mois après la naissance, même 10 mois après la naissance, il y a les activités de reproduction qui commencent. Et les séquences d'apprentissage, il semble qu'il y a une phase d'écoute, une phase de test et puis une phase de mise en pratique. Et donc tout ça se produit sur quelques mois. Finalement. Mmh. Et donc on a une phase d'écoute où l'oiseau il s'imprègne du chant de ses congénères ou d'autres espèces. Hein. Les phases peuvent se succéder. Il y a une phase qui correspond au babil des enfants, hein, des bébés, qui en fait ils sont en train de tester, d'apprendre à répéter, et puis ils écoutent, ils sentent bien qu'il y a une différence, et puis après une phase de test. Pour la rousserolle verderolle, on a une preuve que ça dure sur, par exemple, sur plusieurs mois, puisqu'en fait, les jeunes partent en Afrique au courant du mois d'août, et au printemps suivant, il y a dans le champ, il y a des incorporations d'oiseaux des savanes.
Ils ont fait leur mue au sens propre.
Voilà.
Fanny Ribac, sur cet apprentissage et cette capacité de vocalisation, qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue neurobiologique et des substrats cérébraux qui sont présents chez les oiseaux et qui leur permettent d'avoir ce langage propre à chaque espèce?
Alors ça a été étudié chez quelques espèces modèles comme le diamant mandarin ou les tourneaux sansonnets ou le canari domestique. Et chez ces quelques espèces modèles, on a montré, et puis quelques autres, hein, c'est juste des exemples, on a montré qu'il existait dans leur cerveau des zones particulières qui sont des regroupements de neurones et qu'on appelle des noyaux, et les noyaux du chant ou les noyaux de l'apprentissage du chant. Et lorsque ces noyaux ne sont pas fonctionnels, les oiseaux ne sont pas en mesure d'apprendre à copier des chants de leur espèce. Donc, aussi, ce qui a été montré, c'est qu'ils avaient absolument besoin, ce qui revient un peu sur la phénologie, comment ça se passe, ils avaient absolument besoin d'entendre des modèles et de s'entendre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'incorporation, de mémorisation et de comparaison de la production vocale à ce qui est mémorisé. Et on a montré, par exemple, que dans ces noyaux, dans certains de ces noyaux, il y a des neurones auditifs qui réagissent vraiment spécifiquement à l'audition et qui sont particulièrement sensibles, qui en fait ne s'allument, ne sont excités que à l'écoute du chant de l'espèce correspondante.
C'est intéressant que vous parliez d'écoute, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'organe qui permet de vocaliser. On n'a pas parlé de comment les oiseaux eux-mêmes percevaient les vocalises de leurs congénères. Nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance en plus à faire des projections culturelles, à anthropomorphiser tout ça, à parler de mélodie, de symphonie. Qui nous dit que le rouge-gorge entend ce que nous on entend, et est-ce qu'il entend ce que nous on entend? A priori, non. Annie Rubach.
Alors, il y a une chose qu'on sait, qu'on connaît bien, c'est la gamme d'audition qui est à peu près la même que celle des humains. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire qu'entre 1,5 et 6 kHz, c'est là la gamme d'audition maximum chez les oiseaux chez qui on a regardé. Alors, évidemment, il y a des oiseaux qui produisent plus aigus et qui ont probablement des gammes d'audition un peu déplacées vers l'aigu. Mais donc ça on connaît. Par contre, savoir quels sont les paramètres qui sont importants pour les oiseaux pour décoder des informations, bah ça on le sait pas chez tous. Et puis ça surtout ça va varier d'une espèce à l'autre. C'est-à-dire que effectivement là où nous on entend quelque chose qui peut être extrêmement complexe, extrêmement mélodique, etc. Pour certains oiseaux, ce qui est important, c'est juste le rythme ou le tempo. Et finalement, la variabilité, les modulations, etc., sont pas importantes pour coder telle ou telle information. Je pense à l'information spécifique. Si on revient sur l'alouette, par exemple, bon, l'alouette, elle a un chant très, très varié. On a montré qu'il y avait plus de 300 syllabes différentes par individu. Et en fait, c'est le rythme et le tempo qui code pour l'information « je suis une alouette », l'information sur l'identité spécifique. C'est-à-dire que si on diffuse des chants d'alouette très, très modifiés, très artificiels, mais où on conserve en fait le bon rythme, qui est le rythme alouette et le tempo alouette, et on met juste des modulations de fréquence, mais beaucoup moins variées que celles qui existent dans les chants naturels, les oiseaux vont interpréter ce chant comme le chant d'une alouette, et y répondre exactement de la même façon.
Grégoire Loïs, là on perçoit toute la ruse de la recherche scientifique, c'est de créer des chimères de chants d'oiseaux, des chants d'oiseaux qui n'existent pas à l'état naturel, pour tester les capacités des vrais oiseaux à recevoir cette information, à la traiter et à s'y confronter, à y répondre.
C'est une ruse qui est utilisée aussi beaucoup par les ornithologues et les birdwatchers, effectivement depuis les années 50, c'est ce qu'on appelle la repasse. Qui a peut-être biaisé un petit peu la recherche, parce qu'on avait tendance à faire systématiquement la même repasse, puisque ça marche, hein, finalement. Il y a une telle pression de sélection au moment de la défense des territoires, puisque c'est à ça que ça sert, et de l'attraction des partenaires, qu'en fait, avec la même repasse, ça marche, et on est peut-être passé à côté de quelque chose qui était la succession des phrases, qui a l'air de compter aussi pour certaines espèces qui ont des chants simples, où il semblerait que ce soit la succession des phases de chants qui donne l'information au partenaire sexuel que c'est probablement un bon choix. Juste à propos du spectre audible par les oiseaux, effectivement, je tiens juste à préciser, les oiseaux n'entendent pas les ultrasons, et les effaroucheurs à oiseaux qui émettent dans l'ultrason, c'est une arnaque.
Okay.
Donc on arrête ça dans les cerisiers et tout, on partage les cerises avec les oiseaux, puis tout se passera bien.
Tout se passe bien. Une autre question, Fanny Rybach, en préparant cette émission, j'ai appris et j'ai vu que certains oiseaux modifiaient leur chant tout au long de leur vie. Alors quel type d'espèces peuvent faire ça, et quel intérêt elles ont à modifier ce chant-là?
Alors, on connaît ça chez les tourneaux, par exemple, les tourneaux sansonnets. On pense que le canari aussi, alors pas le canari, enfin le canari domestique peut-être aussi, hein, mais il faut savoir que le canari domestique, avant d'être domestique, c'est surtout une espèce sauvage, hein, qu'on trouve sur les îles Canaries. Et on pense que, par exemple, chez ces deux espèces, ils apprennent tout au long de leur vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent moduler, incorporer des nouveaux éléments tout au long de leur vie, dans leur champ, et les produire. Et ça pose d'une manière générale toute la question de à quoi sert le champ, en fait. Et le champ sert dans un contexte de reproduction sexuelle. Et en fait, il sert à dire « je suis là » aux partenaires sexuels potentiels et aux compétiteurs, ou en tout cas aux individus du même sexe. Et « je suis là », ça veut dire que si on est un oiseau, qu'on revient exactement chaque année dans les mêmes territoires, on va se retrouver avec les mêmes voisins. Mais éventuellement, peut-être que les voisins auront changé un peu. C'est peut-être plutôt les fils qui vont revenir, ou c'est peut-être une évolution temporelle, ou des nouveaux oiseaux qui arrivent. Et le fait de pouvoir apprendre un chant tout au long de la vie, en fait, ça permet d'adapter le répertoire et d'adapter, du coup, les relations aux autres, en fait.
Grégoire Loïs, un merle de 2022, est-ce qu'il chante pareil qu'un merle du début du XXe siècle ?
Alors, probablement pas. C'est vraiment, alors, d'autant plus pour cette espèce, puisqu'en fait, il y a deux siècles et demi, le merle noir, il était cantonné dans les forêts. C'était véritablement un oiseau forestier. Il a gardé probablement une structure de chant d'oiseau de milieu fermé, puisqu'il fait des longues pauses entre ses phrases, hein. Ce qui est plutôt une caractéristique des oiseaux de milieu fermé pour des raisons acoustiques que je ne connais pas perso. Mais probablement pas. Et en plus, le merle, il fait comme tous les oiseaux, il incorpore aussi dans son chant des bruits ambiants. Donc, ils étaient au début des années 2000, il y avait des incorporations de sonneries de portables à l'époque où on avait tous à peu près les mêmes sonneries de portables.
Restez avec nous parce qu'on va parler de la fonction du chant des oiseaux dans un instant et puis on va partir en reportage. Part 1 par Chassol dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure du chant des oiseaux et nous en parlons avec Fanny Ribac, enseignante-chercheuse dans l'équipe communication acoustique à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, et avec Grégoire Loïs, directeur adjoint de Viginature au Muséum national d'histoire naturelle et auteur de Ce que les oiseaux ont à nous dire aux éditions Fayard. On en arrive à présent au reportage du jour. Pour ce reportage, et malgré l'hiver, j'ai tenté d'aller écouter le chant des oiseaux avec un audio-naturaliste. Il s'appelle Fernand de Roussen et sa passion est d'enregistrer les sons de la nature, sons qu'il partage sur son site naturo-phonia.com. Alors qu'il exerçait en tant qu'ornithologue, il a commencé à enregistrer le chant et les cris des oiseaux, puis il s'est tourné vers tous les autres sons émis dans la nature. On s'est donc retrouvé au bois de Vincennes le 15 décembre alors qu'il faisait un froid glacial et on a été tendre nos oreilles découvertes aux oiseaux et Fernand de Roussen m'a expliqué l'importance de ce travail patient d'archivage de leur chant.
Alors là, on est au bois de Vincennes, près du lac Daumesnil, dans un milieu en fait de parc urbain, mais un grand parc. Hein. Et là, on se dirige vers un endroit particulier, enfin je l'espère, parce que le lac est aujourd'hui entièrement gelé. On va vers une chaudière. Une chaudière, c'est un lieu particulier où les oiseaux d'eau, les foulques, les poules d'eau, les canards, les cygnes et les oies se rassemblent pour maintenir de l'eau libre en pataugeant. Et à cet endroit-là, donc, les gens viennent les nourrir en plus, leur donner du pain. Et ça fait un énorme rassemblement d'oiseaux. Et c'est très intéressant à cette période où les oiseaux chantent pas tellement en fait.
C'est vrai que l'hiver, il y a quelques oiseaux quand même qu'on entend un petit peu, quelques merles, quelques maisons charbonnières.
Là, tu en entends les corneilles, ouais.
Corneille, c'est un.
Voilà, maison charbonnière. On entend titu. Elle n'est pas très enthousiaste quand même.
Un peu froid comme nous.
Ouais, elle chante.
Ce parc a un sens particulier pour vous. Je crois que c'est un peu là où vous avez fait vos premières armes. Quel type d'oiseaux vous écoutiez? Quels sont vous avez commencé à enregistrer ici?
Alors en fait, avant d'enregistrer, j'ai commencé à observer au Bois de Vincennes à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Je me rappelle que ma grand-mère m'avait offert une paire de jumelles et ça avait été vraiment la révélation. Observer un accenteur mouché de près, observer un rouge-gorge énorme, c'était assez incroyable avec cette paire de jumelles. Mais et donc je suis toujours resté fidèle à ce bois qui, voilà, on commence à voir la chaudière là-bas au fond. Donc au fil des années, j'ai continué à venir ici et à suivre en enregistrant d'ailleurs les oiseaux, l'évolution des oiseaux dans le bois. Et ça a vraiment évolué depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de perruche à collier, il n'y avait pas de bernache du Canada. Par contre, il y avait d'autres oiseaux qui chantaient dans le vieux bois, qui étaient le rouge-queue à front blanc, le pouilleux siffleur, et qui ont disparu, par contre.
Vous avez gardé des traces sonores de ces oiseaux?
Voilà, vous avez exactement compris à quoi servait, en fait, la pratique de l'enregistrement. C'est de conserver en mémoire, en fait, des souvenirs, des enregistrements, et l'évolution, en fait, même des espèces.
Comment vous l'interprétez, ce chant des oiseaux? Chaque espèce a le sien. Voilà, vous, en tant que passionné, amateur, observateur, comment vous le comprenez, vous l'écoutez, vous le traduisez?
Pour moi, c'est vraiment un langage. C'est le langage universel. Ça fait partie de la grande symphonie du vivant. C'est-à-dire que là, voilà, on est balayé par le vent. Ça fait partie de ce langage universel, même le vent. Mais les oiseaux ont une place particulière dans ce grand langage parce que chaque espèce se détermine par son chant, par ses cris. Et pour chaque espèce, il y a à l'intérieur toute une gamme sonore qui correspond à des comportements. Il y a les chants, bien sûr, mais il y a aussi les alarmes, il y a aussi la soumission, il y a aussi le bien-être. Enfin bon, il y a tout un tas de langages. Et quand on pratique, comme je le fais, et comme le font les bioacousticiens, l'écoute des chants d'oiseaux, on entend ça partout, ça devient une langue. Ouais. Comme on apprend l'anglais, comme on apprend le chinois, moi j'ai appris la langue sauvage.
On est arrivé à l'endroit où l'eau n'est pas gelée.
J'ai amené un bout de pain, il ne faut pas le faire hein, normalement. Hein, mais... Tiens, il y a une oie à tête barrée. L'oie à tête barrée, c'est l'oiseau qui vole le plus haut au monde. Elle passe l'Himalaya en migration. Ah. Alors là, ce qu'on entend, c'est pousse-toi de là. Moi j'en veux aussi. Hein, c'est, là, ils ne se font pas des bisous. Là.
Alors là, vous sortez votre enregistreur, on est deux du coup à,
voilà, mais là, je
à enregistrer.
Simplement. Ouais. Ah oui, il faut profiter un peu de ça. Alors, les coups de clairon, là, c'est ceux sur les foules.
Ouais.
Les mouettrieuses, ben, elles rigolent, hein, on entend bien. Là. Ouais. Ah, on
qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans le cri des mouettes là? Qu'est-ce que vous allez
là, chercher? C'est la texture, je trouve qu'elle est. C'est un petit cri, ça craque, ça déchire un peu l'air, et puis il y a le bruit des ailes avec.
Ouais.
Là on entend les foules qui se bagarrent un peu. Ah, il y a une moto derrière ça. Ah, on voit tête barrée là. Ah voilà. Ça, c'est une femelle de colvert. Vous voyez, en fait, ce cri d'oie à tête barrée, bon, il faut aller en Inde, dans l'Himalaya pour les entendre, ou en Sibérie. Mais là, moi, ça m'intéresse, ce cri, pour le mettre en sonothèque, pour avoir un document, dire, voilà, cet oiseau a été enregistré au Bois de Vincennes, un 15 décembre. C'est intéressant. Pour les générations futures, ouais. J'ai gardé une mémoire de cet oiseau.
Quel travail de partage vous faites, justement, éventuellement, avec des ornithologues, des chercheurs, qui s'intéressent notamment à l'identification et à la d'espèces en France?
J'ai déposé une partie de ma sonothèque à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris en 2005. J'avais en ce temps-là déposé 15 000 enregistrements à peu près. Depuis, j'ai plus de 70 000 enregistrements maintenant. Mais l'important est quand même de partager, effectivement, comme vous dites. C'est-à-dire que dès que des chercheurs, même des étudiants me contactent sur un sujet précis en bioacoustique principalement, je leur fournis tous les sons qu'ils ont besoin, s'ils en ont besoin. Pour des accents, pour des lieux différents d'où eux ils enregistrent et ça sert effectivement la science par rapport à ça. Mais je dirais que mon but maintenant, après 40 ans d'évolution en fait dans le monde des sons de la nature, c'est plutôt la contemplation. Alors ça, j'espère par contre, essayer de le faire partager dans mes naturophonies, dans mes créations et tout ça, auprès du public. C'est-à-dire refaire découvrir le monde sauvage par l'écoute et par la beauté en fait de ce que nous offre cette planète. Il ne faut pas oublier qu'on est pour le moment la seule planète qui chante. Dites-vous bien qu'à chaque moment sur la planète, il y a un lever du jour quelque part et il y a un chorus, que ce soit hémisphère sud, hémisphère nord, sur une île, quoi que ce soit. Il y a toujours et quelque part un endroit qui chante de ces oiseaux. Et ça, c'est extraordinaire, extraordinaire.
Voilà pour ce reportage au Bois de Vincennes, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Fanny Ribac.
Alors d'abord, j'aime beaucoup Fernand Derroussen. Parce que il fait vraiment partie des gens qui incitent à écouter et à ouvrir ses oreilles. Et il le fait avec une démarche très rigoureuse et en même temps très poétique. Et donc écouter des enregistrements de Fernand Derroussen, c'est toujours beaucoup d'émotion. Et puis il y a plein de choses dans tout ce qu'il dit. Et puis c'est drôle de juste pouvoir utiliser juste ses oreilles, en fait. Et puis effectivement, avant qu'il ne le dise, moi j'avais reconnu la mouette, j'avais reconnu le foulque, j'avais pas reconnu l'oie à tête barrée, mais j'avais bien reconnu que c'était un anatidé. Et je crois que ça, c'est une chose importante, c'est qu'en fait, il faut écouter. Il faut écouter, il faut fermer les yeux, si on veut, ou les garder ouverts, mais se réapproprier cette capacité, parce qu'on a des grandes capacités d'écoute, et simplement on les néglige beaucoup, et on les néglige d'autant plus qu'on vit dans un monde, la plupart des gens vivent dans un monde très urbanisé, et donc il y a beaucoup de bruit ambiant, et qu'il y a un bruit ambiant qui empêche l'écoute du bruit du monde vivant.
Grégoire Loïs.
Pareil, hein, Fernand, c'est un petit peu, c'est un peu une star. Je l'ai rencontré en 92, et à l'époque, il commençait. Il avait encore une autre activité et il commençait à produire. Il avait produit un truc qui était hyper pédagogique. C'était des cassettes audio où il y avait le même enregistrement sur les deux faces, mais un des deux enregistrements était légendé par une voix qui annonçait, en fait. Et donc, il y avait des ambiances sonores et il y avait notamment les étangs de Saint-Hubert. Il y avait une cassette sur les étangs de Saint-Hubert et il y avait une autre cassette sur le Cap Fréhel, qui sont deux lieux dans lesquels j'ai beaucoup, beaucoup fait d'ornitho. Du coup, c'était vraiment étonnant. Et ce que m'évoque cet enregistrement de Fernand, d'abord, c'est l'émotion avec laquelle il parle de tout ça. Ça va bien au-delà du témoignage purement. On est vraiment dans la subjectivité et l'émotion. Et puis, quelque chose qu'il m'avait dit déjà en 92 et qui m'avait frappé à l'époque, il m'avait dit « j'arrête d'enregistrer en Île-de-France. Il y a trop de bruit. » Et en fait, là, on a entendu des sirènes. Lui-même, il fait remarquer qu'il y a une moto.
Quand il appelle ça le sonouillard. J'ai pas gardé ça dans mon portrait, le sonouillard.
Et quand on a une parabole, qu'on la dirige un tout petit peu en haut, on entend un avion, même s'il est quasiment invisible à nos yeux. Enfin bref, donc cette pollution sonore, en fait, qui alors évidemment, la Bois de Vincennes, elle est particulièrement manifeste, mais en tous les cas, c'est la première personne qui m'a parlé de ce problème, c'était quelqu'un qui faisait des enregistrements. Moi, à l'époque, j'écoutais, donc avec notre cerveau, on filtre très bien, on entend juste l'oiseau quand on veut l'écouter. Mais quand on enregistre, le micro, il prend tout, lui.
Fanny Ribac, ça c'est intéressant, cette question de l'environnement sonore des oiseaux qui va impacter directement leur chant. On s'en est rendu compte quand on habite en ville, par exemple au moment du confinement, on s'est rendu compte que les oiseaux vocalisaient plus fort dans les espaces urbains pour contrebalancer le bruit environnant. Ça fait partie aussi de la grande plasticité des oiseaux, c'est de s'adapter en des temps très courts à des contraintes écologiques, environnementales nouvelles.
Oui, alors en fait, pendant le confinement, effectivement, tout le monde a redécouvert ses oreilles, et avec bonheur. Et il s'est passé peut-être un peu la même chose que ce qui se passe effectivement quand pour la première fois, on met un casque sur ses oreilles avec un micro, un enregistreur au bout, et qu'on pointe le micro sur un oiseau, et où tout à coup, on a l'impression de découvrir ses oreilles. Et effectivement, on découvre aussi à ce moment-là que en fait il y a tout le temps du bruit. Il y a tout le temps du bruit et ce bruit ambiant, notamment en ville, il est dans des fréquences très graves, enfin assez graves, c'est tout le bas du spectre jusqu'à 1000 Hertz à peu près, et ou un peu plus. Et c'est tous les bruits de voitures, tous les avions, tout le bruit industriel. Et on s'est aperçu, enfin je dis on, moi j'y suis pour rien, mais il y a des chercheurs qui ont comparé par exemple les vocalisations de mêmes espèces en milieu urbain et en milieu non urbain. Et bon, le premier exemple qui a été publié, c'est sur la maison Charbonnière, qui fait un chant qui fait un peu quelque chose comme tita, tita, tita. Et en fait, celles qui vivent en milieu urbain, la note la plus basse, eh ben, elle est un peu plus haute que la note la plus basse de celle qui vit en milieu rural, pour caricaturer un peu le propos. Et en fait, il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça, c'est-à-dire qu'ils chantent plus aigus. Parfois pas de beaucoup, hein, parce qu'ils ont des capacités qui leur permettent pas d'aller comme ça, de faire 3000 hertz d'un coup, bien sûr. Mais, et ça, c'est dû à deux choses. D'abord, probablement au fait qu'ils chantent plus fort. Mmh. Et en fait, en chantant, parce que pour aller au-dessus du niveau de sonore du bruit de fond, ils chantent plus fort. Et donc, quelque part, mécaniquement, ça conduit à produire des fréquences plus hautes. Et ça, on s'en est aperçu aussi pendant le confinement, parce qu'en fait, quand on enregistre et qu'on compare les niveaux d'amplitude des chants d'oiseaux pendant le confinement, où il n'y avait pas de bruit ambiant, et hors du confinement, eh ben les oiseaux, pendant le confinement, ils chantaient plus doucement. Mmh. Ils n'avaient pas besoin de crier. Mmh. Et ça, ça, c'est documenté, c'est mesuré, et c'est assez impressionnant, parce que c'est des différences de plusieurs décibels.
Oui,
quand même.
C'est ça.
Et bon, donc il y a cette chose. Et puis il y a aussi le fait que comme ils produisent plus aigus, bah du coup, leurs chants s'extraient du bruit ambiant qui, par ses fréquences graves, peut masquer leurs chants, en fait. Mmh. Et on pense qu'effectivement, c'est aussi une manière de s'adapter pour pouvoir continuer. Enfin, pour pouvoir. Ça leur permet de continuer à transmettre des messages. Et toujours chez la maison Charbonnière, par exemple, bah, visiblement, la note de la plus basse fréquence de son chant, elle est importante pour les femelles. Mmh. Et les femelles sont sensibles à cette fréquence grave. Et là où c'est paradoxal, c'est que les femelles sont sensibles, semblent être préférées, avoir une attraction vers des fréquences graves, mais les oiseaux chantent plus aigus à cause du bruit ambiant. Mmh. Donc ça a vraiment des conséquences sur la perpétuation
de cette espèce-là. Grégoire Louis, Fanny Ribac évoque un sujet très important, c'est la fonction de ce chant. Alors là, on comprend bien la fonction pour la reproduction du chant. Ouais. Alors expliquez-nous quelles sont les grandes fonctions identifiées pour le chant des oiseaux.
Bah là, en plus, on comprend d'autant mieux. C'est-à-dire qu'on a une perturbation, on a un chevauchement avec une bande spectrale. Les oiseaux... C'est même pas qu'ils n'ont pas d'autre choix que de chanter, c'est ceux qui ne s'adapteraient pas, ils laissent pas de descendants. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de transmettre ses gènes, c'est de trouver un partenaire et de transmettre ses gènes. Donc en fait, il y a une valeur sélective qui est absolument considérable sur des environnements perturbés comme ça. Les oiseaux sont plutôt plastiques dans la majeure partie de leurs traits, et du coup, ils adaptent effectivement leur chant. Alors le chant, à propos des fonctions du chant, et puis des autres vocalisations, des autres émissions sonores, le chant, c'est vraiment, donc je suis là, je suis un individu en recherche de partenaire. Je dis un individu parce qu'en fait, les femelles chantent aussi, ce que les ornithos de milieu tempéré savent peu, finalement, mais alors... En milieu tropical, on sait bien que les femelles chantent. En milieu tempéré, on sait que les femelles de rouge-gorge chantent. C'est un truc qui circule chez les ornithos. Et puis récemment, il y a quelques années, on a découvert aussi que l'hirondelle rustique, la femelle, chantait. Et que le chant de la femelle dit autre chose que le chant du mâle. Mmh. Alors, il peut dire la même chose. Je suis un partenaire sexuel potentiellement libre. Et... Mais il peut dire aussi à une autre femelle... Tu viens pas faire du recrutement dans mon couple. Et puis, il peut dire à un mâle, tu arrêtes d'essayer de recruter d'autres femelles. Mmh. Donc, en fait, voilà, il y a plusieurs fonctions. C'est très lié au territoire, au domaine et à la recherche de partenaires, même s'il y a beaucoup d'activités extra-partenariales chez les oiseaux, comme la plupart des êtres vivants, d'ailleurs. C'est une notion très occidentale, la notion de partenaire, il semblerait. Et ça, c'est vraiment pour le chant. Parce qu'après, il y a d'autres émissions acoustiques qui sont des cris de contact, des cris de quémandage, des cris d'alarme, beaucoup de cris d'alarme. Et puis, par exemple, ce qui a été vu chez les maisons charbonnières au Japon, que certains auteurs ont élevé au rang d'espèce, c'est des recompositions de cris de contact pour dialoguer avec d'autres espèces. Mmh. Donc il y a vraiment tout un champ aussi.
Ça, c'est hyper intéressant, Fanny Ribac, le fait qu'entre espèces, certains oiseaux peuvent saisir l'importance d'un chant, d'un cri, d'une autre espèce. Par exemple, les mésanges ne dialoguent pas qu'avec les mésanges, elles peuvent être sensibles au chant ou au cri d'un autre oiseau.
Mais ça, ça a été relativement bien étudié dans les cris d'alarme. Les cris d'alarme, en fait, produits par une espèce donnée, peuvent susciter des réponses d'alerte chez d'autres espèces. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a pu remarquer que les cris d'alarme ont un peu entre les espèces, ont un peu les mêmes paramètres, en fait. Et donc, les paramètres qui codent l'information, en fait, sont un peu les mêmes entre les espèces. Donc ils arrivent à se comprendre comme ça. Ça peut aller effectivement au-delà de ça. Alors, communication, en fait, ça dépend de tout ce qu'on en... Est-ce que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait émission d'un signal, réception de ce signal et puis réponse comportementale. Et puis en fait, c'est l'ensemble qui forme la communication. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'interaction. On peut avoir juste un cri d'alarme d'une espèce peut être un indice pour une autre espèce, mais pas forcément. Mmh. Va pas forcément susciter une réponse chez une autre espèce.
Il y a même des oiseaux comme le drongo à raquettes en Afrique qui imitent les cris d'alarme des autres espèces pour les faire fuir et leur piquer leur nourriture. C'est pas très esprit de Noël, mais nous, l'esprit de Noël, on l'a. Et justement, on vous a fait des petits cadeaux. On va vous proposer à l'une et à l'autre d'écouter un chant qui vous plaît, je crois. Alors, on va commencer par vous, Fanny Ribac. Alors, est-ce que vous le reconnaissez ?
Ah, c'est le loriot d'Europe.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce chant-là ?
Plusieurs choses. Une chose, je crois, c'est qu'il est relativement peu fréquent et pas facile à entendre. Parce que d'abord, le loriot d'Europe, il est présent, c'est un oiseau africain en fait, et il est présent fin avril à l'été. Et sa période de chant, la période où on peut entendre son chant, est assez courte, temporellement. Ensuite, c'est un oiseau plutôt forestier, et puis c'est pas un oiseau qu'on va rencontrer de manière très très fréquente, d'autant plus qu'il évolue plutôt dans la canopée, donc on le voit jamais, alors qu'il est très très beau. C'est un oiseau jaune, magnifique, la femelle est un peu plus verte. Chez certaines espèces de loriots, d'ailleurs pas le loriot d'Europe, je crois pas que ça a été documenté, mais le mâle et la femelle chantent effectivement, parce que c'est vrai que c'est très répandu. Alors bon, je vais pas m'écarter trop. Il y a quelque chose qui me touche au ventre, en fait, dans l'émotion. C'est très profond, c'est très fort, on le voit pas, c'est pas très souvent. Donc moi, j'ai vraiment, quand j'entends un loriot, je me dis bon, j'ai gagné une bonne partie de ma journée.
Ce qui est rare et précieux. On va pas faire de jaloux. On continue l'ouverture des cadeaux avec vous, Grégoire Louis. On change un petit peu de latitude.
Ouais, on pourrait se tromper d'ailleurs. On pourrait imaginer qu'on se retrouve en forêt tropicale. Néanmoins, il y a une mésange qui chante par-dessus. Et en fait, là, on est Canada ou Sibérie ou Islande. Et on a un plongeon, là. Un oiseau qui n'est pas un passereau et qui pourtant est capable de vocaliser avec des modulations, des rythmes qui font... Je sais pas, on a l'impression que c'est crépusculaire. On a l'impression qu'on n'imagine pas ça à 14h au zénith. C'est fatalement à l'aurore ou au crépuscule. Et c'est vraiment le chant d'amour, quoi. Là, on est vraiment sur un chant d'amour, quoi. Alors là, je pense qu'il n'y a que les mâles qui chantent, mais c'est peut-être aussi un biais de birdwatcher occidental. À vrai dire, je ne le sais même pas. Faudrait que je me renseigne.
Voilà, vous l'aurez compris, vous pouvez tendre vos oreilles au chant des oiseaux, que vous soyez en ville ou à la campagne. Vous pouvez participer aussi au recensement de ces espèces grâce au programme Viginature. On vous mettra le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux, Fanny Ribac, Grégoire Loïs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir permis de décoder ce chant crypté des oiseaux. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver la chronique d'Étienne Klein, le pourquoi du comment.
De l'esprit des lois physiques, épisode 2, comment les lois physiques agissent-elles sur le monde physique ? Imaginons deux électrons, les deux premiers apparus dans l'univers. Puisqu'ils sont porteurs de charges électriques de même signe, Ils subissent une force électrique qui a tendance à les éloigner l'un de l'autre, d'autant plus fortement qu'ils sont plus proches. Mais si je dis cela, c'est parce que je suis allé à l'école, où j'ai appris cette loi physique. Mais comment nos deux électrons la connaissent-ils, eux qui n'ont jamais été scolarisés? Cette loi est-elle inscrite au fin fond de leur être? Se l'appliquent-ils à eux-mêmes après l'avoir apprise par cœur? Sont-ils capables de la décrypter de loin sur un grand tableau noir posé quelque part dans l'univers? Obéissent-ils plutôt à des consignes ou à des ordres qui proviendraient de l'extérieur du monde? Ou encore, dans une ébauche de démocratie participative, entament-ils des négociations avec l'univers pour déterminer avec lui le meilleur comportement convenant à des particules chargées? Cette petite mise en scène nous conduit à poser une autre question, carrément vertigineuse. Si l'univers est bel et bien apparu d'un seul coup, comme on l'entend dire parfois, ses lois physiques étaient-elles déterminées dès son origine, c'est-à-dire dès avant son commencement? Si la réponse à cette question est positive, pourquoi ne pas dire que les lois physiques ont constitué le berceau de l'univers, voire son principe créateur? Si la réponse est au contraire négative, une autre question se pose. Comment l'univers est-il parvenu à fabriquer les lois physiques qui agissent en son sein? Ces questions ont beau relever de la métaphysique la plus éthérée, il est bien difficile de faire comme si elles ne se posaient pas. En effet, avec quelles armes scientifiques parvenons-nous à affronter le problème de l'origine de l'univers? Réponse, par la seule entremise des lois physiques que nous connaissons et des théories qui les englobent. Ce sont elles que nous projetons aussi loin que possible dans le passé pour tenter de décrire l'univers primo-primordial. Pareil constat nous oblige donc à interroger la correspondance qu'il y a entre l'univers et les lois physiques qui agissent en lui et aussi sur lui. Quelle relation le monde empirique entretient-il avec son arsenal législatif? Lequel précédait l'autre? Qui est l'œuf? Qui fait la poule? Et où est donc le coq? Je l'ai déjà dit, les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Mais l'univers, lui, a changé et continue de changer. Plus précisément, les conditions physiques au sein de l'univers n'ont cessé d'évoluer. Cette différence de comportement entre l'univers et ses lois pose un problème redoutable. Comment un univers qui évolue peut-il être régi par des lois physiques qui n'évoluent pas? Ces lois sont-elles hors de lui ou en lui? Si c'est la première hypothèse qui est la bonne, comment parviennent-elles à agir au sein même de l'univers alors qu'elles lui sont extérieures? Et si au contraire, elles font intrinsèquement partie de l'univers qui, lui, est en évolution, comment parviennent-elles à y demeurer fixes? Auraient-elles un statut spécial qui leur permettrait d'échapper à toute historicité? Bref, plus de 2 millénaires après Platon, nous voici confrontés à la même question que lui, celle qu'il posait déjà dans le Timée. Quel est le lien qui existe entre le monde empirique et sa représentation formelle ou législative? Tout cela exige à l'évidence un prochain épisode. En attendant, je vous propose de faire réflexion là-dessus, comme disait Blaise Pascal.
Merci beaucoup Étienne Klein et merci à toutes et tous pour votre écoute. Un grand merci à toute l'équipe de La Science CQFD, Natacha Triou, Eve-Étienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Natacha Demoul, Garance Prema, Agnolo, Clémence Alzar, à la réalisation Sam Bakiast, à la technique aujourd'hui Étienne Rouche. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France et continuer de nous suivre sur notre compte Twitter à Science CQFD. On se retrouve bientôt dans La Science CQFD. En attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.